Il est 18h30 à Paris, 17h30 en temps universel, à l'heure du débat du soir avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique. Bonne émission. Et merci, on se penche déjà sur la Journée internationale des droits des femmes. Dans le débat du jour, ce sera samedi. On va parler ce soir d'intelligence artificielle.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Alors, est-ce que vous faites le lien entre intelligence artificielle et droits des femmes? Que propose l'IA? Des données qui sont principalement récoltées sur Internet. Or, Internet est une forme de miroir de nos sociétés et Internet reproduit notamment les stéréotypes. À quel point retrouve-t-on cela dans l'intelligence artificielle? Notre question ce soir, est-ce que l'IA est sexiste? Comment cela se manifeste-t-il? Et face à cela, comment lutter alors que l'IA est en pleine évolution? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Camille Gérard-Chanudet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en sociologie au Centre d'études de l'emploi du travail au Conservatoire national des arts et métiers, autrice d'une thèse intitulée « La justice algorithmique en chantier, sociologie du travail et des infrastructures de l'intelligence artificielle ». Face à vous, Hélène Dexvin-Ruiz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la responsabilité sociale des entreprises et de la diversité et de l'inclusion, copilote du groupe de réflexion Les Femmes et l'IA. Ben voilà, en plein dans notre sujet, au laboratoire de l'égalité. Notre troisième invité est en ligne avec nous depuis Douala au Cameroun, Nelly Chatudiop, bonsoir.
Bonsoir.
PDG et cofondatrice de la start-up Déjara, plateforme d'épargne et d'investissement mobile qui est basée sur la blockchain et l'intelligence artificielle, spécialement conçue pour le marché africain. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, pour débuter, Hélène Dexvin-Ruiz, j'ai donné en quelques mots le fonctionnement de l'IA, mais c'était très bref. Un peu plus dans le détail pour comprendre comment on peut en arriver, ou pas d'ailleurs, puisque c'est la question ce soir, à des biais sexistes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment marche l'IA?
Alors, oui,
Les robots conversationnels, par exemple, comme ChatGPT.
Alors, moi je voudrais d'abord répondre à votre question. L'IA est-elle sexiste?
Allez-y, si vous voulez.
Ah ben si, parce qu'on est en plein dedans. Donc, l'IA est-elle sexiste? Oui, à fond. Pourquoi? Okay. Parce que l'IA... Alors, qu'est-ce que l'IA? L'IA, il ne faut pas oublier que c'est un langage mathématique qui tente de reproduire l'intelligence humaine. Donc, c'est des algorithmes, c'est des bases de données. Aujourd'hui, on sait qu'on a 88% des algorithmes qui sont construits par des hommes. Donc...
Attendez, on va y venir vraiment, mais juste pour camper le décor, rappelons comment fonctionne l'IA. Quand on va sur ChatGPT... Par exemple, bon, c'est ce qui parle aux gens, c'est le robot conversationnel. Bon, c'est une des illustrations de l'IA, il y en a plein. Mais par exemple, tout ce qui est génératif, comment on arrive à la réponse qu'on obtient?
Ah oui, bah alors ça c'est... D'accord.
D'où vient-elle?
D'accord. Alors, des bases de données, des algorithmes et...
D'où viennent-ils? On va tout déconstruire.
Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les algorithmes et les bases de données sont des machine learning, donc c'est-à-dire des systèmes auto-apprenants. Ils se nourrissent de ce qu'on leur donne. Donc, pour revenir à ChatGPT, et c'est une excellente transition avec la Journée internationale des droits de la femme, alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il est vrai qu'il y a plus d'hommes qui utilisent ChatGPT que les femmes. Donc, les femmes ont une petite réticence. Ce qui veut dire que, quand les femmes... n'utilisent pas ChatGPT, eh bien, elles contribuent à alimenter les biais sexistes de l'IA. Et donc, ChatGPT, mesdames, il faut absolument l'utiliser. Et il faut absolument l'utiliser au féminin. Je suis directrice de ceci, je suis lectrice de machin. Il faut vraiment utiliser, parce qu'il y a des biais qui sont au niveau conversationnel, comme vous le rappeliez, mais également au niveau constitutionnel de la construction.
On a des données qui montrent que les femmes utilisent moins.
Oui. Alors, je ne les ai pas.
Mais parce que dans le monde, hélas, les femmes sont moins en prise avec la technologie, peut-être
oui,
massivement
parce
que les hommes.
Oui, mais tout à fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Alors ça fait aussi partie des choses qu'il faut absolument changer. Il faut changer les codes, il faut changer les mentalités, il faut changer le narratif. Mmh. Il faut arrêter de penser que l'IA fait peur, que l'IA va remplacer les humains. Non, l'IA ne remplacera jamais les humains parce qu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas l'humanité, il n'y a pas d'humain. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'humain. Donc, l'IA ne remplacera pas les humains, ça c'est une chose, et il faut arrêter de penser que tout est négatif. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde en transition, dans un monde de change management, et il faut absolument qu'on on arrête d'avoir cette image négative. En fait, on est en train de réinventer les métiers. Et les métiers, ça passe aussi par l'IA. Et alors, puisque vous aimez bien les chiffres, moi, je voudrais juste vous citer un chiffre que j'adore. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2/3 des enfants qui sont en maternelle, aujourd'hui, qui vont exercer un métier qui n'existe pas encore. Ça veut dire qu'on réinvente nos métiers, on réinvente les métiers. Donc oui, il va falloir se former, oui, il va falloir faire des tas de choses et il va falloir arrêter de subir la technologie. En fait, c'est ça le message.
Nelly Chatu Diop, ça se passe comment sur le continent africain? Vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous êtes cofondatrice de cette start-up Déjara, qui est notamment conçue pour le marché africain. Est-ce que y a une différence dans l'accès déjà à l'intelligence artificielle entre les hommes et les femmes? Parce que les biais sexistes, ils peuvent commencer là, évidemment.
Ah oui, tout à fait. De toute façon, pour utiliser l'IA, déjà, il faut Internet. Et on a déjà un gros écart d'accès à Internet entre les hommes et les femmes, hein, qui va du simple au double, suivant les pays où on se situe en Afrique. Donc, de facto, l'accès à l'IA... Est d'autant limité quoi pour les femmes, malheureusement.
Donc ça veut dire que comment est-ce qu'on peut inciter, alors pour reprendre ce que disait Hélène Dex Van Ruys, qui incite les femmes à davantage être en prise avec l'IA, comment ça peut se faire?
C'est une chose d'être en prise avec l'IA, mais je pense qu'il faut repartir à la jeunesse. Quand vous avez posé la question de mais comment un modèle d'IA est généré, et je pense que c'est vraiment ça la base. Un modèle d'IA est généré à partir des données qu'on appelle des données d'entraînement. Et donc aujourd'hui, des algorithmes comme ChatGPT utilisent énormément de données, que ce soit données historiques, que ce soit des tests, des vidéos, tout le contenu qu'on a pu produire sur Internet. La problématique, c'est que ce contenu en lui-même porte déjà énormément de biais, qui sont le reflet de la société, donc des biais sexistes et plus encore, des biais discriminants. Et donc, quand on ne va pas, on peut pas corriger ces données historiques-là, mais si on a conscience de ces biais-là, on peut décider de tweaker les données d'entraînement afin que le modèle ne reproduise pas les biais historiques. Mais pour le faire, comme la précédente intervenante l'a dit, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui codent ces modèles d'IA. Parce que c'est seulement quand il y a des femmes qu'elles se poseront la question « Mais regardons si ces données-là ne portent pas en elles, finalement, des comportements anormaux ou qu'on ne devrait pas reproduire dans le futur. S'il n'y a que des hommes, et aujourd'hui, malheureusement, 88% des personnes qui produisent des algorithmes IA sont des hommes, ça va être de plus en plus compliqué, quoi.
Camille Girard, Chanudet, effectivement, on rentre dans le vif du sujet. Comment on peut imaginer qu'il n'y ait pas de biais sexiste dans l'IA? Sachant que, elle nous l'a dit, Nelly Chatu Diop, ça reprend ce qu'il y a sur Internet. Et Internet est le miroir de nos sociétés. Donc, ce serait nier que nos sociétés ont des biais sexistes.
Mais absolument, et je pense que c'est un point qui est fondamental quand on parle d'intelligence artificielle, c'est de resituer que sont ces outils-là, comment ils fonctionnent. C'est pas des outils autonomes, magiques, tombés du ciel. C'est des instruments qui sont produits dans des contextes donnés par des personnes qui ont des caractéristiques sociales particulières. Et le point des données qui a été évoqué juste avant est vraiment essentiel. On le voit notamment dans le cas de la reconnaissance faciale. Par exemple, il y a beaucoup d'algorithmes de reconnaissance faciale et il a été montré par un groupe de chercheuses états-uniennes, notamment dans un projet de recherche qui s'appelle le Gender Shades Project, que ces algorithmes reconnaissent beaucoup mieux des visages de personnes blanches et des visages d'hommes en particulier. Pourquoi est-ce que les algos de reconnaissance faciale fonctionnent mieux sur ces situations-là? C'est parce qu'ils ont été entraînés avec des données, des images d'hommes blancs en particulier.
Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait davantage de partage de la technologie de l'IA dans le monde?
Ça veut dire qu'il faut faire attention à la question des données avec lesquelles on entraîne l'intelligence artificielle avant toute chose. C'est-à-dire que l'IA, c'est un outil qui va reproduire des données qui lui sont fournies en entrée. Ça fonctionne simplement comme ça. Le modèle algorithmique prend les données, donc prend par exemple la base de visage qui lui a été fournie et va être capable de reproduire la reconnaissance sur la base de cette base-là. Donc il faut donner à l'IA des images plus diversifiées, par exemple pour la reconnaissance faciale, des images de personnes qui ne sont pas blanches, des images de femmes pour que les algorithmes soient capables de les reconnaître.
Ce que je veux dire, c'est que la base, elle est alimentée par ceux qui font Internet et qui sont majoritairement en Occident.
Absolument. Dans le cas dont je vous parlais justement, c'est des images de personnes célèbres qui ont été utilisées. Et on voit bien que dans les personnes célèbres, les acteurs, les personnels politiques, etc., les personnes célèbres, c'est en grande majorité des hommes blancs, ce qui explique que les algorithmes aient du mal à reconnaître la diversité des visages qui sont présents sur Terre.
Donc, est-ce que c'est à d'autres continents d'être un peu plus actifs sur ces questions-là? Mais ont-ils accès à ces technologies ou en tout cas au même stade avancé qu'on peut retrouver aux États-Unis notamment? Ou est-ce que c'est justement, je parle des États-Unis parce que c'est là où se trouvent peut-être les plus grandes sociétés d'IA, est-ce que c'est à ces sociétés-là d'être davantage inclusif, davantage pour la diversité?
Je pense que c'est difficile de parler en termes de responsabilité. Moi, je suis sociologue et je pense qu'il faut analyser déjà, avant toute chose, la façon dont sont construits ces outils. Et pour moi, aujourd'hui, on a un problème fondamental là-dessus, c'est qu'on a une ignorance absolue de la façon dont sont conçus ces outils-là, de l'importance des données, mais non seulement de l'importance des données, mais de l'importance du travail des données, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner des informations à la machine, mais ces données, elles sont annotées, elles font l'objet d'un travail d'annotation, c'est-à-dire qu'on indique ça c'est un visage blanc, ça c'est un visage souriant, ça c'est un visage, etc. Et ça, c'est un micro-travail du clic qui est réalisé à grande échelle par des travailleurs qui ne sont pas dans des pays occidentaux, qui sont sous-payés et invisibilisés. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas du tout en compte quand on parle de l'IA, on parle souvent juste des modèles algorithmiques, et cette question des données-là, elle est essentielle pour pouvoir reprendre la main sur comment sont annotées les données et quelle est l'information qui est donnée aux algorithmes et qui sera reproduite ensuite.
Mais c'est de l'ignorance ou de l'opacité?
Alors là, c'est toute la question politique qui est entre les deux. Évidemment, quand on met en visibilité tout ça, on s'enlève aussi cette dimension de l'IA comme objet magique qui serait capable de résoudre tous les problèmes du monde. Et on entre dans le dur de la matière, du travail et des ressources matérielles humaines qu'il faut pour faire fonctionner l'intelligence artificielle.
Je poursuis avec vous, mais je vois que vous avez envie de parler, Hélène Dex-Van-Ruys. Mais comme vous avez dit ce mot annotation, ça me fait penser au travail que vous avez effectué. Vous allez peut-être pouvoir nous en dire un petit mot. Ça donne un exemple concret. Vous avez passé 6 mois au sein du pôle Open Data, du service de la documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation. Oui. Est-ce que ça a confronté, est-ce que vous êtes confronté à des biais sexistes de l'IA au cours de cette expérience-là?
Oui, alors moi, j'ai travaillé justement dans un service de la Cour suprême, comme vous le disiez, qui travaille à construire un outil d'intelligence artificielle. J'ai commencé cette enquête-là en ayant moi-même très peu conscience de la façon dont étaient construits les outils d'IA. Et je me suis rendu compte en rejoignant cette équipe-là qu'elle était constituée de magistrats, de data scientists, donc de personnel technique en dur, mais surtout d'une vingtaine d'annotatrices, donc c'était surtout des femmes chargées de la notation des données d'entraînement de l'intelligence artificielle. Ces annotatrices, leur travail, c'est... Donc on est sur des algorithmes juridiques ici, donc les données c'est des décisions de justice. Leur travail c'est d'annoter au quotidien des décisions de justice, de faire défiler le texte et d'indiquer ici on trouve un prénom, ici on trouve un nom, ici on trouve tel et tel type d'élément dans les décisions de justice, comme sur les visages, on annoterait la nature d'un visage. C'est le gros du travail, hein, sur une équipe de 25 personnes, on a entre 15 et 20 annotatrices qui sont principalement des femmes. Et ça je pense que c'est un point qui est intéressant à souligner, comme on parle aujourd'hui de cette question du genre dans le développement des IA. Oui, les personnels techniques, c'est en très grande majorité des hommes, hein, dans l'informatique, dans la data science, mais les petites mains de l'IA qui sont invisibilisées, dévalorisées, souvent sous-payées, délocalisées dans des pays étrangers, c'est pour le coup en grande majorité des femmes, comme souvent d'ailleurs les travails invisibles. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte aussi dans le travail de conception. L'IA, elle rejoue des inégalités non seulement dans les résultats qu'elle produit, mais aussi dans la façon dont elle est construite et dans les dynamiques professionnelles qui la sous-tendent.
Et ces annotatrices, elles ont peu de pouvoir pour faire changer les choses concernant ces biais sexistes?
Alors, à la Cour de cassation, c'est des fonctionnaires intégrés au système de la justice, mais souvent, le travail d'annotation, dans le cas de ChatGPT, par exemple, c'est un travail qui a été délocalisé, sous-traité à des entreprises, notamment au Kenya. C'est des travailleurs qui sont placés très loin des centres décisionnels et qui, en effet, ont une marge de manœuvre parce que c'est eux qui décident de la notation. In fine, quand il faut apposer un label sur une donnée, ces travailleurs-là ont la main. Mais par contre, pour faire bouger globalement le choix des données, par exemple, qui est fait pour entraîner les modèles, non, c'est des travailleurs et des travailleuses surtout qui n'ont pas du tout de pouvoir décisionnel sur ce cadre global de l'IA.
Hélène Dex-Van-Ruys, ça vous inspire quoi? Donc, les femmes sont présentes dans l'IA, mais... évidemment pas au poste à responsabilité, ou en tout cas celles qui peuvent faire changer les choses quand il y a des biais sexistes. Nelly Chatudiop a rappelé ce chiffre, 88% des algorithmes sont gérés par les, sont créés par des hommes. Et un autre chiffre, puisque j'aime bien les chiffres, vous l'avez dit, près de 90% des chercheurs en IA sont des hommes.
Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Camille. Oui. En fait, dans la bataille de l'IA, il y a un enjeu d'éthique et il y a un enjeu de cadre réglementaire. Et aujourd'hui, on est très loin. Alors, on a très clairement trois pôles qui sont les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et l'Europe est la seule qui met en place un cadre éthique avec une réglementation. On a eu l'IA Act en 2023. On a Elisabeth Borne l'année dernière qui a créé un comité d'éthique. Et en fait, on a parlé de la... Camille a parlé de label tout à l'heure. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque étape, nouvelle étape de construction d'algorithme, il faudrait avoir des audits, il faudrait avoir des vérifications que... comme on sait que l'IA amplifie, reproduit et diffuse les biais sexistes, les biais, etc. En fait, il faut mettre des contrôles à chaque différente construction. Et pour ça, on a aussi des labels. Il y a des labels qui existent, il y a des chartes, il y a des choses qui existent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui, la réglementation et le cadre éthique.
L'IA, l'intelligence artificielle, est-elle sexiste? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, à deux jours de la journée internationale des droits des femmes. Mes trois invités sont Hélène Dex-Van-Ruys, qui est directrice de la responsabilité sociale des entreprises et de la diversité et de l'inclusion, copilote du groupe de réflexion Les Femmes et l'IA au laboratoire de l'égalité, on vous en entendait il y a quelques instants. Camille Girard-Chanudet, chercheuse en sociologie au Centre d'études de l'emploi du travail au Conservatoire national des arts et métiers, autrice d'une thèse, je vais la citer à nouveau, La justice algorithmique en chantier, sociologie du travail et des infrastructures de l'intelligence artificielle. Et depuis Douala, Nelly Chatudiop, PDG et cofondatrice de la start-up Déjara, plateforme d'épargne et d'investissement mobile basé sur la blockchain et l'intelligence artificielle spécialement conçue pour le marché africain. L'IA est sexiste à fond, vous nous avez dit dans votre première réponse, Hélène Dex-Van-Ruys. Alors, comment se manifeste le sexisme de l'IA? Je vais citer cet exemple qui est connu des professionnels de santé au Royaume-Uni, je ne sais pas si vous le connaissez. Un homme et une femme qui interrogent une même application numérique mise à disposition par le réseau public de soins, le NHS au Royaume-Uni. Les deux indiquent les mêmes symptômes. Essoufflement, sensation d'oppression dans la poitrine. L'application répond à la femme, crise de panique, dépression. Et à l'homme, risque de crise cardiaque. Tout est dit. Nelly Chatudiop, je voudrais réagir, rebondir sur ce qu'a dit Hélène Dex-Van-Ruys, qui a commencé à évoquer le souci de la régulation. Puisque si il y a ces biais sexistes qui sont reproduits, la question c'est, comme je disais dans le début de cette émission, alors que l'IA explose littéralement, comment faire pour ne pas rater le train en marche et réguler à temps? Est-ce que c'est imaginable ça, sachant que les géants, évidemment, de l'IA sont aux États-Unis, où la dérégulation est maître, surtout avec la nouvelle administration Trump. Qu'est-ce que vous en pensez, Nelly Chatudiop? Est-ce qu'on peut réguler cette IA Act qu'a évoqué effectivement Hélène Dex-Van-Ruys, qui est le grand programme européen? Est-ce qu'il peut être à la hauteur?
Ben, disons que l'européenne, enfin, l'africaine et l'européenne, parce que j'ai vécu une grande partie de ma vie aussi en France, que je suis, va vous dire, ben oui, effectivement, il faut de l'éthique, il faut réguler, mais l'entrepreneur que je suis a aussi envie de dire, mais on régule pour que ces modèles soient utilisés par qui et pour qui. S'il faut réguler, il faut aussi permettre à ces entreprises, peut-être européennes et africaines demain, qui développent un IA beaucoup plus éthique, d'avoir aussi un accès à un marché qu'elles peuvent monétiser. Parce que si nous, on fait le tout plein régulation en Europe, tandis que les autres ne jouent pas dans le même terrain, on va toujours se faire dépasser et nos entrepreneurs ne pourront jamais avoir les moyens d'aller de l'avant. Donc, si on décide de réguler au niveau européen, il faut aussi que les gouvernements européens et les entreprises publiques et privées, peut-être européennes et demain aussi africaines, soient astreintes à pouvoir peut-être n'utiliser ou ne consommer de préférence que ces modèles-là qui ont ces labels. Mais très souvent, ce qu'on voit en régulation, c'est qu'on s'arrête au pied du guet, on régule très bien, on est très satisfait, les policy makers ont fait leur travail et derrière, nous, les entrepreneurs, on souffre parce qu'on ne trouve pas de marché, on ne peut pas s'exporter aux États-Unis, évidemment. évidemment, parce que les grosses entreprises ne sont pas astreintes aux mêmes contraintes que nous, et on ne peut pas non plus, finalement, avoir voix de fait dans nos continents respectifs, parce que même nos gouvernements ou nos entreprises sont séduites par les modèles qui viennent d'ailleurs.
Mais justement, comment on peut éviter le deux poids, deux mesures quand on voit que de toute façon la ligne, elle ne bougera pas, ou en tout cas, elle n'est pas prévue de bouger aux États-Unis ? L'Europe se veut à la pointe, que peut faire l'Afrique ?
Ben aujourd'hui, déjà, ce qu'on voit en Afrique, d'ailleurs, il y a deux jours, le Cameroun en particulier a annoncé avoir pris en main les choses et mis un consortium pour réfléchir sur la stratégie IA du gouvernement. Et ce n'est pas le premier pays, le Sénégal a fait de même, la Côte d'Ivoire aussi. Donc en Afrique, on se rend quand même compte que ce soit le secteur privé ou le secteur public, ont pris la mesure du fait que l'IA, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc, ils veulent déjà construire, c'est quoi la stratégie qu'on veut avoir, comment on peut l'utiliser pour améliorer le bien-être de nos populations, parce qu'en Afrique, il y a toujours un enjeu de, nous sommes quand même le continent le moins développé, et on a besoin de permettre à nos populations d'un mieux-être, de meilleures conditions économiques. Donc, la réflexion qu'on va tous mener, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir en sortir pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Comparativement, je pense aux États-Unis, où on est sur des usages un peu plus fantaisistes de l'IA pour créer des avatars sympas. Nous, c'est une question de comment on l'applique à la santé, comment on fait en sorte de toucher les grands-mères qui sont dans des villages et qui ont le premier médecin à peut-être 100 km. Voilà, donc c'est des problématiques, les optiques sont un peu différentes, et j'ose espérer que de ces contraintes, de ces challenges qu'en Afrique, on va pouvoir en sortir des IA un peu plus économiques, parce qu'on a beaucoup parlé de l'IA éthique, on a moins parlé de l'IA qui consomme de larges quantités de modèles, et on sait aujourd'hui, avec notamment DeepSeek, qu'on peut avoir une IA aussi performante, mais qui consomme un peu moins de données, qui est un peu plus frugale, qui consomme aussi moins d'intensité de puissance de calcul, et donc peut-être demain, beaucoup plus à la portée de nous, Africains.
Et qui peut être plus équitable, enfin plus responsable, ouais.
Oui, bien évidemment.
Camille Girard-Chanudé, comment on peut éviter le deux vitesses que j'évoquais ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que, en fait, l'IA aggrave le sexisme ? Parce que, encore une fois, la dérégulation étant maître mot aux États-Unis, les géants de l'IA étant aux États-Unis, est-ce que vous croyez, vous, à cette régulation ?
Moi, je pense, enfin, je vous ferai une réponse en deux temps. D'abord, sur la question de la régulation, je pense qu'elle est indispensable. Je rejoins ce qui a été dit avant et qu'on a besoin de mettre des garde-fous, d'encadrer le façonnage des intelligences artificielles, et ce, en prenant en compte la complexité du travail, la chaîne de travail dont on parlait avant de conception des IA, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, y compris en Europe. Hein. Le AI Act, vous avez deux mots en passant sur le travail d'annotation. Le focus majeur est mis sur les modèles algorithmiques.
Donc, ce n'est pas la priorité. Lutter contre les biais sexistes de l'IA, ce n'est pas la priorité.
La régulation n'est pas du tout mise, en tout cas, sur les données.
Et les biais sexistes, c'est une des parts de
bien
la régulation.
Bien sûr, absolument. Et donc, du coup, j'arrive au deuxième temps de ma réponse. Je pense qu'on ne peut pas considérer l'IA en dehors des contextes dans lesquels elle est conçue et dans lesquels elle est déployée. C'est-à-dire que l'IA, elle n'existe pas de façon autonome. L'IA, elle existe dans une société et elle est le reflet d'une façon de fonctionner d'une société qui est sexiste, qui a plein d'autres problèmes par ailleurs que ceux du sexisme. Et l'IA les reproduit. Je pense qu'elle les aggrave aussi, parce que comme le numérique en général, c'est une caisse de résonance, mais l'IA en tant que telle, c'est pas l'IA qui est sexiste, c'est les contextes dans lesquels on la produit, les contextes dans lesquels on la met en œuvre, et les objectifs aussi finalement des structures. Je trouve que c'était très juste ce qui a été dit dans l'intervention précédente, mais c'est de dire pourquoi en fait on développe de l'IA, pourquoi on la met en œuvre, et je pense que ça c'est très important aussi d'avoir ça en tête. Il n'existe pas une intelligence artificielle, il existe autant d'intelligence artificielle que de cas d'usage, que d'acteurs qui décident de la déployer. Certaines IA peuvent au contraire aller complètement dans une autre dynamique. Il y a des collectifs militants en Amérique du Sud, par exemple, qui ont développé des IA sur les langues autochtones régionales pour avoir des IA conversationnelles qui soient capables de parler dans ces langues-là. C'est des projets extrêmement militants qui visent à refléter la diversité des cultures. C'est pas l'IA en tant que telle qui est problématique, c'est la façon dont elle est construite.
Mais ça veut
utilisée.
Dire que finalement, lutter contre les biais sexistes, c'est pas la priorité des chantiers de l'IA ?
Il y a pas. Enfin, moi, je vous dirais, il y a pas deux chantiers de l'IA en tant que tel. Il y a en effet les grands acteurs de la tech, dont je pense pas que la priorité ce soit de lutter contre les biais sexistes ni de faire le bien sur Terre. Et il y a d'autres projets d'IA qui ont d'autres objectifs, mais il faut toujours revoir qui y a derrière ces outils-là.
Hélène Dex Van Ruys, vous m'avez pas dit, vous qui êtes copilote du groupe de réflexion Les Femmes et l'IA au laboratoire de l'égalité, vous m'avez pas parlé du fait que c'était important qu'il y ait davantage de femmes dans les écoles d'ingénieurs qui forment au métier de l'intelligence artificielle pour que demain il y ait, est-ce que c'est ça, oui, en amont ça, que ça commence là pour que demain effectivement les femmes soient davantage représentées dans les métiers de l'IA et donc ça c'est une manière de lutter contre les biais sexistes.
Tout à fait, je mettrai un bémol. Alors moi je partage pas exactement le point de Camille.
Ouais.
Pour moi oui, les biais sexistes c'est le premier chantier pour avoir une IA égalitaire entre les femmes et les hommes. Je précise que les femmes représentent 52% de l'humanité et qu'on est en train de construire une IA sans elle et que les femmes sont la seule majorité qu'on traite comme une minorité. Donc pour moi, oui, c'est super important qu'on commence par les biais sexistes de l'IA. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison, les choses prennent du temps pour bouger. La première chose à faire, c'est pour changer les mentalités, il faut commencer par l'éducation. L'éducation, à mon sens, on a une responsabilité tripartite, c'est-à-dire les parents, l'éducation, l'école et les entreprises. Donc, il faut effectivement qu'on ait plus de filles qui rejoignent les STEM, qu'on ait plus de filles qui sortent des écoles d'ingé. Et plus on aura... Aujourd'hui, on est à 24%. Donc, il y a vraiment un trou dans la raquette. 24% des filles qui sortent des écoles d'ingé. Et en fait, on ne se retrouve pas. On a un trou dans la raquette par rapport aux femmes qui embrassent des carrières dans la tech. Donc, effectivement, là, on a un vrai problème. Et le problème, c'est sensibiliser, démystifier l'IA, montrer les cas d'usage qui soient drôles, qui soient différents. Arrêter de parler de tech. La tech, ça peut faire peur. Le wording tech, il y a plein de choses qui peuvent être démystifiées. Dans les écoles, les écoles primaires, il faut commencer à parler de la tech tout de suite et montrer qu'on peut faire garçons et filles ensemble, construire des choses sympas, des robots qui ont un sens, des robots qui ont une utilité, ce genre de choses.
D'un mot, en fait, pour conclure, il nous reste une minute. En fait, les biais sexistes de l'IA se réduiront si le sexisme de la société recule.
Mais c'est absolument ça, l'IA est le reflet de la société.
Mais tout à fait.
Complètement. Ouais.
Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que l'IA peut, parallèlement à ça, être un outil aussi de lutte contre les violences faites aux femmes
oui.
Avec
oui.
les applications qui,
oui.
se, qui se développent.
Tout à fait, tout à fait. Avec l'IA, justement, par les applications qui se développent, en fait, l'IA, c'est aux sources de progrès, sources d'innovation. Donc oui, si on peut mettre l'IA au service des violences faites envers les femmes, si on peut développer des applis qui permettent de, quand elles ne se sentent pas en sécurité dans la rue et elles peuvent être accompagnées ou ce genre de choses, oui, c'est le côté très positif de l'IA.
Et en cela, même si aujourd'hui elle véhicule les biais sexistes, c'est d'abord une avancée pour les femmes ?
Oui, c'est le paradoxe.
Mmh.
Mais qui a créé ces applications pour les femmes ? On peut se poser la question.
Ah, on va terminer sur cette ouverture et puis sur ce paradoxe. C'est une bonne fin de débat. Merci beaucoup à vous trois.
Merci.
Hélène Dex Van Ruys, Camille Girard Chanudet et Nelly Chatudiop. Merci beaucoup à vous trois. Merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat. Et Hélène Avril à sa réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour. On se penche sur ce qui nous attend dans les prochaines minutes. Ce sera le grand journal du soir avec Diane Berger dans une minute. C'est le dossier qui nous emmènera à Bruxelles où se tient aujourd'hui un sommet européen consacré à l'Ukraine. Et puis juste après, dans 30 minutes, Afrique Soir, la première édition de ce jeudi. Bonsoir Arthur Ponchelet.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Quel programme ce soir Arthur ?
On est en Côte d'Ivoire dans une demi-heure, Abidjan, où l'ancien patron de la cellule antidrogue du port autonome et deux officiers ont été condamnés aujourd'hui à 5 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de trafic de drogue. On revient également sur la visite du président du Ghana en Côte d'Ivoire, John Dramani Mahama, nouveau médiateur pour tenter de résoudre le bras de fer entre la CDAO et les pays de l'AES. Notre dossier ce soir consacré à l'actualité politique en RDC et le retour de Joseph Kabila dans l'arène. L'ancien chef de l'État annonce restructurer son parti. Et puis des centaines d'enfants victimes de contamination au plomb en Zambie. C'est l'alerte lancée par Human Rights Watch. Hier, l'ONG pointe du doigt 30 ans d'extraction minière. On vous raconte tout dans une demi-heure.
Eh bien, on sera au rendez-vous. Merci Arthur Ponchetet. Pour l'instant, dans 30 secondes, c'est le grand journal du soir avec Diane.